Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est RTL Soir, c'est parti jusqu'à 20h. Avec à la une ce soir, la France sous la menace des cyberattaques au moment où les demandes de rançon se multiplient, notamment contre des hôpitaux contraints de ralentir leur activité. On apprend que plusieurs sociétés ou institutions françaises, et pas des moindres, de Total à Airbus, ont été touchées ces dernières années par une intrusion informatique, de l'espionnage industriel sur plusieurs années dont on ne connaît pas l'ampleur. En revanche, les soupçons se portent déjà vers la Russie. Qui dément ? On en parlera tout à l'heure avec Loïc Guézot, qui est secrétaire général de Clusif. C'est un groupe d'experts en cybercriminalité. Tout de suite l'actualité. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, ce choc aux airs de revanche. Le PSG affronte le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions. Nous irons sur place au Camp Nou dans un instant. Dans ce journal également, le vote par anticipation, ça existe aux États-Unis. Eh bien, ce sera peut-être une réalité bientôt ici en France. Et puis on vous amènera skier dans le Jura. Oui, ouais. Oui, c'est possible, à Jura-sur-Léman. Le parking est en France, mais les pistes côté Suisse.
Ah, les petits malins. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Avec demain, du soleil presque partout, et enfin.
Oui, enfin, comme vous dites, il faudra juste attendre un peu parce que c'est vrai que le matin, il y aura beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays, mais le soleil va finir par s'imposer au sud de la Loire. Le ciel sera un peu plus variable au nord, quelques grisailles localisées, mais pas grand-chose. Seule exception, la pointe bretonne et le Cotentin où ça restera couvert avec de faibles pluies et du vent toute la journée. Côté température, bonne nouvelle également, pas de gelée. Des maximales au-dessus des normales, comprises entre 9 degrés à Langres et 19 à Biarritz. Il fera 13 à Paris.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et pour commencer, direction donc Barcelone. Dans moins de 3 heures maintenant, le Paris Saint-Germain va tenter de défier le Barça sur sa pelouse. 8e de finale de la Ligue des Champions. Un match à la saveur particulière, hein, forcément, 4 ans après la fameuse remontada. Bonsoir Nicolas Georgerot. Vous êtes sur place pour RTL. Le PSG a ce soir un certain nombre de choses à prouver, à se prouver aussi.
Oui, c'est le finaliste de la dernière Ligue des Champions qui vient assumer un statut, qui veut démontrer que l'été 2020 n'était pas une performance sans lendemain et qui vient aussi, bien sûr, chasser quelques fantômes tenaces qui le ramènent à 2017. C'est un nouveau chapitre que le PSG vient écrire ici, insiste Mauricio Pochettino.
L'histoire, c'est l'histoire. Et le passé, c'est le passé. On ne peut pas changer le passé, mais on peut construire un meilleur futur. C'est ça notre objectif.
Pochettino au PSG depuis 46 jours seulement. C'est son premier match de Ligue des Champions avec son nouveau club. C'est un pari de la direction. Il faudra qu'il soit gagnant contre un Barça ragaillardi par rapport au moment du tirage en décembre dernier. Ce qui devrait donner un match assez équilibré ce soir.
Ce match, Nicolas, c'est aussi bien sûr un choc entre deux stars. Mbappé d'un côté, Messi de l'autre.
Oui, dans cette rencontre, avec plus de 25 internationaux dans les deux effectifs, en l'absence de Neymar notamment, projecteur braqué sur Mbappé qui va endosser ce rôle crucial de leader en attaque. 41e match de Ligue des Champions déjà à 22 ans. Et en face, l'icône catalane aux 118 buts dans la compétition. Messi revient en forme, attention danger, et Antoine Griezmann sera là pour l'épauler.
Et on suivra tout cela, bien sûr, en direct avec vous, Nicolas Georgerot. Match dès 21h, mais la soirée foot débute dès 20h45 hein, sur RTL, avec un RTL Foot spécial Ligue des Champions.
Dans l'actualité également ce soir, cette petite révolution en perspective pour la prochaine élection présidentielle.
Oui, figurez-vous Vincent qu'on pourrait voter par anticipation, c'est-à-dire avant le jour J. La question, Marie-Bénédicte Allaire, doit être débattue au Sénat.
Oui, le rituel du dimanche au bureau de vote va peut-être prendre un coup de vieux. Un amendement rajouté au dernier moment par le gouvernement veut donner la possibilité aux électeurs qui le souhaitent de voter durant toute la semaine précédant le scrutin grâce à des machines à voter. Mais évidemment, la règle du bureau de vote restera la règle. Tous les bulletins seraient dépouillés ensemble le dimanche soir du scrutin. L'avantage de ce nouveau dispositif, donner plus de souplesse aux électeurs. L'inconvénient, il faudrait se déplacer dans quelques communes où seraient disposées les machines à voter. Alors attention, c'est un souhait du gouvernement. Hein. Ce n'est pas fait, ce n'est pas adopté. Les sénateurs vont se prononcer jeudi et au Sénat, la droite est majoritaire. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, fait déjà part de ses réticences en affirmant que le Sénat s'opposera à toute manœuvre politicienne. Et puis le cas échéant, si c'est était voté, bah, il faudra aussi que le Conseil constitutionnel soit appelé à valider ou non ce texte.
Effectivement, ce n'est pas encore fait. Merci à vous, Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. J'ajoute que l'Assemblée nationale vient d'adopter à l'instant le projet de loi contre les séparatismes, adoption en première lecture avec 347 voix pour, 151 contre et 65 abstention.
Ouais, les séparatismes, la lutte contre le communautarisme. Tiens, on en parlera aussi sans doute tout à l'heure en recevant Claire Coach à 18h35. Elle publie un livre sur son histoire de jeune fille turque devenue française. Ce sera tout à l'heure à 18h35. Sur le front du Covid, le ministère de la Santé dit non au projet du ministère de la Culture.
On en parlait ce matin sur RTL. Hein, ces concerts tests avec des malades, des personnes testées positives au Covid. Eh bien, Virginie Garin, ça ne se fera pas.
Non, ce n'est pas à l'ordre du jour, a confirmé à RTL le ministère de la Santé. Alors, pas question de laisser rentrer volontairement des personnes testées positives dans une salle de spectacle. Alors, le but des organisateurs était de mieux comprendre la transmission du virus et de savoir si un concert peut-être un lieu de contamination. Tout cela sous le contrôle de médecins. Le protocole à l'étude consistait à choisir un public de jeunes sans facteur de risque, de tous les tester, d'autoriser les positifs à rentrer et de tous les suivre ensuite. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, trouvait l'idée intéressante, ce qui n'est pas le cas visiblement de son collègue de la Santé, Olivier Véran. Alors, il y aura quand même des concerts expérimentaux en mars et en avril, et notamment à Paris, à l'Accor Arena, supervisé par l'Institut de la Recherche Médicale et par les hôpitaux de Paris, au moins 3000 personnes debout, masquées, sans distanciation. Le feu vert n'est pas encore donné par le préfet, mais pour ce concert parisien, l'idée est de tester les spectateurs et de dire à ceux qui seraient positifs de rester chez eux.
Virginie Garin, du côté de la vaccination, on disposera peut-être bientôt d'un quatrième vaccin. L'américain Johnson & Johnson a déposé tout à l'heure une demande d'autorisation auprès de l'Union européenne. Intérêt de celui-ci, une seule injection suffit et il se conserve facilement au frigo comme l'AstraZeneca. La suite est fin aujourd'hui du G5 Sahel et Emmanuel Macron l'a annoncé, pas question de retirer les troupes françaises.
Je considère que précipiter un retrait français serait une erreur. Donc dans les mois qui viennent, nous ne changerons pas notre présence.
Nous ne changerons pas notre présence, dit Emmanuel Macron. Bonsoir Christophe Decroix.
Bonsoir.
Il y a quelques semaines, le président de la République avait laissé entendre l'inverse. Pourquoi ce changement ?
Le président en a parlé avec ses homologues du Sahel et il pense désormais qu'il ne faut pas hypothéquer les résultats obtenus depuis un an face aux organisations djihadistes.
Nous réengageons nos forces pour véritablement essayer d'aller décapiter ces organisations avec une action renforcée.
Avec l'arrivée de 1200 soldats tchadiens supplémentaires et de forces spéciales européennes au sein des forces spéciales Takuba, Emmanuel Macron veut désormais réorienter l'action des militaires français.
Notre volonté nous concentrer sur la stricte lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire des forces plus légères de projection. Notre objectif, c'est d'arriver à 2000 hommes sur Takuba, avec, si je puis dire, un pilier français autour de 500 hommes dans la durée.
Alors, pour que ce soit efficace, les États du Sahel devront faire le service après-vente.
Dès que nous libérons une zone, il faut que l'État revienne avec le déploiement de forces de sécurité intérieure, de magistrats, la réouverture d'écoles.
Et c'est à cette condition, accompagnée de l'élimination des chefs djihadistes, que le président réfléchira à un retour des troupes.
Tout ça nous fait espérer des résultats concrets en termes de sécurité dans les tout prochains mois. Et c'est un effort, pour moi, entre maintenant et l'été.
Donc, pas de retour avant l'automne, au plus tôt.
Christophe Decroix, chef du service étranger de RTL.
Allez, on marque une pause dans le journal d'Amandine Bégaud. Et puis, dans un instant, on va voir que la justice va peut-être offrir un bracelet à Georges Tron, un bracelet électronique.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Avec la suite du journal d'Amandine Bégaud et donc Georges Tron, fixé sans doute sur son sort demain.
L'ancien secrétaire d'État est jugé en appel pour viol et agression sexuelle. Le parquet a requis tout à l'heure 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Cindy Hubert, l'avocat général, demande également son placement sous bracelet électronique.
Oui, c'est quelque chose qui est possible, mais qui reste très rare. Les jurés peuvent préciser dans leur verdict qu'ils souhaitent que la partie prison ferme soit immédiatement aménagée. L'avocat général tente donc de les guider sur cette ligne de crête, ce qui permettrait de condamner Georges Tron sans l'envoyer en prison. Ainsi, explique le magistrat, l'élu reviendrait dans la société, mais avec un statut de violeur. Car oui, des scènes sexuelles ont bien existé dans la mairie de Draveil, sous couvert de réflexologie plantaire. En première instance, les accusés ont été acquittés. Alors l'avocat général redouble d'énergie pour démontrer qu'ils avaient une emprise sur les plaignantes. Ce sont eux, les patrons, elles, les sans-grades qui quémandent un travail. Et le piège s'est refermé. Pour l'avocat général, cette emprise, c'est une expression de la contrainte indispensable pour qualifier juridiquement un viol ou une agression sexuelle. 3 heures de réquisitoire, 3 heures de pédagogie dans ce dossier si difficile où Georges Tron continue de nier l'existence même de ces scènes. Les jurés prennent consciencieusement des notes. Demain, ce sont eux qui auront le pouvoir de l'envoyer ou non derrière les barreaux.
Cindy Hubert à la cour d'assises de Paris pour RTL. On vous le révélait dès ce matin, 3 gendarmes de l'Isère ont été mis en examen pour avoir laissé l'un de leurs collègues ivre prendre la route. Un couple de septuagénaires avait été tué. Franck Lénard défend aujourd'hui 2 des mises en cause. Le passager, notamment du gendarme alcoolisé, pour lui, ses poursuites ne tiennent pas.
Il y a un gendarme qui est monté avec son ami, qui était son meilleur ami, et qui a tenté de le ramener à la raison. Mais il n'a pas pu faire autrement que de tenter de le raisonner. Il n'a pas pu se battre avec, il n'a pas pu lui arracher le volant des mains. Il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire dans une situation pareille. Il a essayé de le ramener à la raison. Hélas, ça n'a pas eu d'effet. Mais ça n'est pas une faute pénale.
Maître Lienard au micro RTL de Serge Pueyo. Le 15 de France, lui, est placé ce soir à l'isolement. Figurez-vous que le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, a été diagnostiqué, je vais y arriver, positif au Covid. C'est ce qu'annonce ce soir la Fédération française de rugby. Pas d'inquiétude, il ne devait pas jouer ce week-end. Le prochain match des Bleus, c'est le 28 février au Stade de France face à l'Écosse. La France qui décroche 2 nouvelles médailles au championnat du monde de ski. De l'or d'abord pour Mathieu Fèvre en parallèle individuel. C'est le premier champion de l'histoire de cette discipline. C'est en effet la première fois qu'elle figure au championnat du monde. Chez les femmes, Tessa Werley décroche, elle, le bronze.
Bon, alors, puisqu'on est dans le ski, je crois que vous avez même maintenant une bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et oui, en théorie, impossible de skier, vous le savez. En France, les remontées mécaniques sont fermées. Eh bien, on a trouvé la solution. Jura sur les monts, Raphaël Vantard nous y emmène.
D'un côté de la station de ski, ce fracas métallique habituel en cette saison. Le bruit des remontées mécaniques. De l'autre, celui-là. Le calme plat et des télésièges à l'arrêt. Bienvenue à Jura-sur-Léman, station franco-suisse. La partie française du domaine est fermée, mais la partie suisse, elle, fonctionne. Et le parking pour y accéder est en France. Ouvert donc à Ludovic et Bruno, 2 skieurs venus spécialement de Savoie.
La Suisse, c'est derrière le petit muret, là. Le parking est en France. Pour les vacances scolaires, on en profite avec les enfants. Ça, oui, c'est sympa, du coup. Et on fait partie des privilégiés, on va dire.
Je suis déçu d'avoir dû quitter mes stations au Savoyard, de faire 100 km pour venir skier en Suisse. Mais c'est comme ça.
À l'inverse des autres stations françaises, Jura-sur-Léman voit donc du monde affluer depuis le début des vacances d'hiver. Les Français vivant à plus de 30 km de la frontière doivent montrer un test PCR datant de moins de 3 jours pour accéder au parking. Laurent Mermet est le directeur marketing de la station.
Dimanche, j'avais par exemple dans la file d'attente une Bretonne qui m'indiquait être venue spécialement avec son test PCR pour pouvoir skier en alpin. La station est remplie à 100% cette semaine et la semaine prochaine, 80% pour la dernière semaine.
Face à l'afflux de skieurs français, la station Jura-sur-Léman a même dû déployer du personnel en nombre sur le parking pour faire serrer les voitures et permettre à tous les footlisses d'accéder au pic.
Et voilà, il n'y a plus qu'à y aller.
Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. En tout cas, ça l'est pour ces petits futés du ski. Voilà.
Bon, pour les grands fans de ski qui ne pouvaient pas s'en empêcher.
Voilà, qu'ils en profitent. Vous revenez à 18h30 pour nous rappeler l'actualité.
Titres, oui. Tout à l'heure.
Ce sera dans quelques minutes, dans un gros quart d'heure. Ce qu'on va faire, c'est marquer une pause. Et puis, dans un instant, parler de cette campagne de cyberattaque. Sans doute, peut-être d'origine russe contre la France. On en parle dans un instant avec un spécialiste de la cybercriminalité, Loïc Guézo. A tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Premier invité d'RTL Soir, Loïc Guézo. Bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général de Clusif. Clusif, c'est le club de la sécurité de l'information français, club qui regroupe donc des experts en cybercriminalité. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner ce soir sur ces intrusions informatiques dont ont été victimes des sociétés ou institutions françaises par l'intermédiaire de ce logiciel nommé Centréo? On parle d'Airbus, Total, Orange, de ministère de la Justice, entre autres, pendant plusieurs années.
Ben, on en sait effectivement un peu plus aujourd'hui, puisqu'il y a eu un communiqué supplémentaire qui vient d'être fait par la société Centréon et qui donc réduit très nettement la portée de ce rapport initial publié hier par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Les premiers noms qui ont été cités sont en fait les noms des clients de la société Centréon, mais il semble que les clients impactés ne soient en fait que des utilisateurs de versions très anciennes et ne sont pas majoritairement dans la liste de ceux qui ont été cités donc initialement hier.
Vous voulez dire que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est quand même une agence nationale, a crié au loup trop vite ?
Non, l'agence a fait son travail de communication technique sur une campagne d'attaque qui a visé des intérêts français. Je rappelle que l'agence nationale est là pour protéger les réseaux du gouvernement et ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Donc si elle a été sollicitée dans cette affaire, c'est qu'il y avait des membres de ces listes qui avaient été touchés.
Donc il y a bien eu une campagne de cyberattaque contre les intérêts français menée depuis l'étranger.
Oui. Pour faire court, on va dire oui. Le mode opératoire a été décrit par l'agence nationale, donc il est comparé à un mode opératoire qu'on connaît bien, Sandworm. Le rôle de l'agence n'est pas de faire des attributions, donc effectivement son rôle se limite à publier ses indicateurs techniques, à charge ensuite pour les sociétés concernées de vérifier chez elles si elles sont ou pas concernées par cette attaque. Alors il y a eu un emballement rapide autour de Centréon avec la liste prestigieuse des clients de Centréon.
Mais on peut croire tout le monde dans cette histoire ? Est-ce qu'on peut croire Centréon ? Est-ce qu'on peut croire ces grands groupes qui n'ont pas intérêt non plus à reconnaître qu'ils ont été, j'ai envie de dire, non pas piratés, en tout cas victimes d'espionnage industriel depuis des années ?
Ben aujourd'hui, la politique de communication des grands groupes qui sont éventuellement attaqués est plutôt de jouer la transparence. Notamment parce que dans le cadre de ces grands groupes, il y a des obligations réglementaires, tout simplement, qui les obligent à alerter les autorités et à communiquer vers leurs actionnaires, par exemple. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Du côté de Centréon, la communication se fait un petit peu dans la violence, puisqu'a priori, Centréon n'a pas été associé à la publication faite hier par l'Agence nationale. Donc a découvert son nom en première page des médias, un petit peu comme tout le monde, et je pense à essayer de réagir aujourd'hui en limitant le scope de sa responsabilité dans ces opérations dénoncées par l'Agence nationale.
En tout état de cause, comme vous le disiez d'ailleurs, il y a bel et bien eu, même si on n'en connaît pas l'ampleur, une attaque menée depuis l'étranger contre des intérêts français. Pourquoi soupçonne-t-on la Russie ?
Alors aujourd'hui, le soupçon sur la Russie se fait par proximité un petit peu facile entre le mode opératoire qui est techniquement validé par l'Agence nationale, qui correspond à un groupe qu'on appelle Sandworm, et de l'autre côté, on a par exemple des actes d'accusation venant des États-Unis qui ont été rendus publics en octobre de l'année dernière, qui concernent 6 officiers du renseignement militaire russe cyber, qui sont justement ce groupe Sandworm, et qui ont attaqué des intérêts comme par exemple les intérêts américains pendant les élections américaines de 2016, les élections françaises de 2017, les Jeux olympiques de 2018, et avec beaucoup de dégâts, cette fois-ci destruction, les systèmes de distribution et de production électrique en Ukraine en 2015 et 2016.
Bon, on y verra sans doute peut-être un petit peu plus clair dans les jours à venir sur cette opération. Mais il n'y a pas que cette affaire d'espionnage industriel qui nous interpelle, évidemment. Les attaques par cyber-rançon se sont multipliées ces derniers mois en France contre des entreprises, des collectivités, des institutions, des hôpitaux surtout dernièrement. L'hôpital de Villefranche-sur-Saône, celui de Dax dans le sud-ouest, il y en a eu d'autres. Est-ce que ce sont des actions concertées, selon vous ?
Alors, ce sont des actions concertées. On est cette fois-ci dans un autre domaine. On n'est pas dans la confrontation étatique dans le cyberespace, comme on pouvait l'être là. On est ici, clairement, dans de la cybercriminalité. Donc, on a, en fait, des criminels qui viennent dans le monde cyber, notamment par ce type d'opération de rançongiciel. Chercher de l'argent, exiger des paiements élevés et en échange, libérer le système d'information de l'hôpital ou de la victime pour lui permettre de retravailler normalement.
Je vous propose d'écouter un instant ce que dit sur ce sujet les responsables du numérique au MEDEF, le patronat, Christian Payot. On l'écoute, il parle notamment de l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Le nombre d'attaques déclarées à l'ANSSI entre 2019 et 2020 a augmenté de 255%, et ceci pour les entreprises de toute taille. C'est une préoccupation qui devient un enjeu très fort économique. Donc oui, il y a un travail important à faire. C'est un danger. On peut trouver des parades et aussi des défenses qui permettent en amont peut-être de limiter les risques. Communiquer vis-à-vis déjà de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, très souvent les malfaiteurs profitent de négligence de la part des salariés d'une entreprise, et quel que soit leur niveau de responsabilité, bien évidemment.
Il parle, vous l'avez entendu, donc le responsable du numérique au MEDEF, d'une hausse de 255%. De ces ces cyber-rançons en quelques années, c'est phénoménal. Ah, est-ce qu'on a retrouvé en ligne Loïc Guézot? Est-ce que Loïc Guézot, vous êtes avec nous?
C'est phénoménal, mais c'est effectivement ce qu'on constate. Oui, vous entends.
Oui, oui. Cette hausse très spectaculaire, vous l'expliquez comment? Bon.
Les enjeux sont importants, puisque les cybercriminels ont une bonne façon, je dirais, de faire de l'argent. Une bonne façon pour eux, c'est-à-dire avec une prise de risque limitée et un retour sur investissement important. Ça marche. Successivement, ils passent de cible en cible. Il y a quelques années, ils attaquaient peut-être les grosses organisations qui, entre-temps, se sont mises en marche pour être mieux défendues. Aujourd'hui, ponctuellement, ce qu'on voit pendant quelques mois, effectivement, c'est les hôpitaux qui sont extrêmement ciblés. Il y a un élément qui était très important dans ce qu'a dit l'interlocuteur précédent, c'est effectivement cette partie sensibilisation. Aujourd'hui, c'est très important de garder des personnels qui sont très attentifs aux moindres signes un petit peu louches sur ce qui se passe au niveau cyber, en particulier sur, par exemple, les réceptions de mails, puisque c'est souvent comme ça que maintenant les cybercriminels attaquent. C'est la dernière porte qui reste ouverte pour leur permettre de rentrer dans le système d'information.
Donc là, ce sont les salariés qu'il faut, prévenir, hein, et c'est à eux aussi de faire attention, de ne pas faire trop preuve de naïveté. Merci beaucoup, désolé pour cette liaison, il y avait un décalage assez important sur la fin, mais on a compris l'essentiel. Merci Loïc Guézot, secrétaire général de CLUSIV, donc, qui regroupe des experts en cybercriminalité. On va marquer une courte pause, et puis on va se détendre sans doute dans un instant avec l'œil de Philippe Cavrivière. On va en prendre le meilleur, et donc ça va décaper.
RTL Soir.
Avec un tout petit peu d'avance sur l'horaire, parce qu'il est quasiment 18h30.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Voici Amandine Bégaud qui nous rappelle l'essentiel de l'info.
Oui, l'Assemblée nationale adopte ce soir le projet de loi sur les séparatismes. Adoption à 347 voix pour, 151 contre et 65 abstentions. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat. Ce sera à partir du 30 mars. Le Sénat a appelé à se prononcer sur le vote par anticipation, c'est-à-dire avant le jour J. Un amendement a été déposé par le gouvernement qui souhaite mettre en place cette mesure pour la prochaine présidentielle. Le 15 de France, lui, est ce soir placé à l'isolement après la découverte d'un cas positif au Covid. Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, hein, en l'occurrence. L'ensemble du groupe doit être retesté demain. Et puis du foot avec ce choc aux airs de revanche ce soir. Le PSG affronte le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions, 4 ans après la fameuse remontada. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur RTL dès 20h45.
Merci Amandine. Vous revenez après le journal de 19h pour il y a un an, il y a un siècle. Ça va mouliner. Hein.
Ça va mouliner, et quelque chose qui a changé la vie des femmes. C'est un bon signe, non? Peggy, vous voyez pas?
Voilà, Moulinex libère la femme, paraît-il.
Vous en avez à la maison?
Alors, en attendant de mouliner, parlez-nous du temps de demain, s'il vous plaît, Peggy, parce que je crois que
j'ai
tout le monde
nouvelle.
Presse va profiter du soleil.
Ben, hein. Oui, exactement, Vincent, et ça va faire du bien. Il y aura beaucoup de nuages malgré tout le matin. Quelques bandes brouillardes, de la grisaille, mais une fois tout ça dissipé, en fait, le soleil va s'imposer sur toutes les régions au sud de la Loire. Au nord, le ciel sera plus variable.
Alternance entre nuages et éclaircies. Quelques grisailles persistantes, mais surtout sur le nord-est, et ce sera de manière très localisée. Seule la pointe bretonne et le Cotentin ne verront pas le soleil. Le ciel restera chargé avec de faibles pluies et pas mal de vent toute la journée. Et les températures, elles seront stationnaires, donc pas de gelée le matin, ça fera du bien. Et les maximales seront 12 pour la saison. 11 à Metz, 12 à Lille, 13 à Paris, 17 à Toulon et jusqu'à 19 degrés à Biarritz.
Formidable. Et ensuite, ça va continuer comme ça les prochains jours?
Et les prochains jours, ça va continuer. Alors, on a jeudi une petite journée un peu plus nuageuse avec un peu de pluie. Vendredi, ça ira un peu mieux. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, du beau temps.
Vous nous détaillerez ça tout à l'heure. À 18h31, on ouvre l'œil de Philippe Cavrivière. Alors c'est vrai, on l'a libéré pour quelques jours, il prend des vacances, mais on vous en offre ce soir le meilleur, à moins que ce soit le pire.
Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne croyez pas que c'est un peu tard pour faire votre revue de presse?
Non, non, mais je fais pas mal. Je me cherche.
Poussez votre journal du micro là.
Je me cherche sur la campagne de publicité RTL.
Ah,
parce qu'il y a tous les visages. Alors c'est amusant. Elle est marrante, puis avec tous les visages alignés, on dirait le jeu là, de l'enfance, la qui est-ce avec est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il a une grosse moustache?
Ouais.
Alors je suis où moi? Je suis où? Ah, oh, ben je suis là!
Ah!
Oh, dis donc, faut que j'arrête la frangipane. Qu'est-ce que j'ai grossi, ouais. Salopard. Ah non, pardon, c'est Bruno Guillon. C'est Bruno Guillon. Ah, non, je n'y suis pas.
Ah.
Il y a les 16 plus importants, les personnalités qui comptent.
Oui.
Il y a vous, mais moi, j'y suis pas dedans. Oh, ne riez pas, vous n'êtes pas dedans, ni Victoire, ni Peggy, ni Daniel. Il n'y a personne. Voilà.
Allez, Philippe, je pense
merci,
que...
RTL.
Il m'envoie
mais
le papier.
Je ne le prends pas mal. Hein.
Non, ça a l'air. Mais je pense que la direction va corriger le tir rapidement.
Bah,
vous. Vous vouliez rendre à nouveau hommage à quelqu'un qui nous a quittés, je crois.
Oui, j'en ai déjà parlé ici, mais je tenais une nouvelle fois à rendre hommage à celui qui est parti trop tôt. Mmh. L'éternel râleur, le mauvais coucheur préféré du public. Bougon, il était sans concession. Ses répliques vont nous manquer. Allez, salut Donald Trump. Vous avez suivi hier l'investiture?
Bah, évidemment.
Bon, c'était à la cool, hein, la Airbnb. Donald avait laissé les clés sous le paillasson, ouais. Il ne s'est pas emmerdé.
Les invités étaient prestigieux hier.
Oui, très. Alors, Justin Timberlake, Lady ouais. Gaga, Jennifer Lopez, Bruce Springsteen, que des rostas. On aurait dit la liste des absents des Energy Music Awards. Il n'a pas pu venir. Elle n'est pas là, nous plus.
Ah, vous faites Nikos.
Oui, c'est Nikos. Ouais. C'est pour voir s'il nous écoute, s'il envoie un texto. Et puis, hey, dis donc, vous êtes mauvaise langue avec vous taquinez Monsieur Bidan sur son âge. Oh, bah oui, mais ça fait déjà 24 heures et Monsieur Bidan est toujours vivant. Il a même déclaré nous n'avons pas une seconde à perdre. Bah, j'ai envie de dire surtout toi.
En raison du Covid, en tout cas, la Maison-Blanche a été complètement désinfectée.
Alors c'est vrai, et c'était à cause du Covid bien sûr, mais c'est aussi à cause des mauvaises habitudes alimentaires de Trump. Bon, il y avait des vieux M&M sous le bureau, des taches de ketchup partout. Mmh. Attention, c'est pas le président qui a coûté le plus cher en pressing. Vous la voyez arriver, puisque le record est toujours détenu par le saxophoniste pris à pic, ce petit souillon de Bill Clinton. Il y a deux, trois lingettes qui y sont passées.
Oh, mais c'est pas vrai. Vous vouliez dire un mot ce soir encore sur les restaurateurs qui sont à bout de nerfs.
Ils sont à bout de nerfs. Alors, seuls deux restaurateurs ne râlent pas en ce moment. C'est Paul Bocuse et Bernard Loiseau.
Oh
pour
non.
Tous les autres, c'est compliqué.
Bon, merci pour la transition. C'est à moi de me débrouiller avec ça. On va parler d'une nouvelle affaire supposée d'inceste. Le neveu de Gérard Louvain qui raconte sa vie brisée par des attouchements de la part du mari du producteur. Alors, ce dernier dément, le mari de Gérard Louvain. Mais le neveu affirme avoir été contraint à des fellations répétées.
Alors, moi, Thomas, je ne peux pas vous répondre. Il faut mettre des experts sur le coup. Des draps froissés, un Kinder Bueno et Sophie la girafe. Encore une nouvelle affaire qui porte la signature de Tonto Kékette. Plusieurs fellations. Mais ça veut donc dire que la première était ratée. Bah oui, mais si le gamin ne s'applique pas. Alors, c'était un test. Vous avez la bonne réaction. Vous êtes choqué. Et ça prouve que ces actes sont ignobles, même si Finkielkraut et Maznev tentent de nous faire croire le contraire. Vous avez bien réagi. Vous avez, c'était un piège, cette vanne. Vous avez fait haut. Sinon, on était mal.
Aïe, aïe, aïe. Vous avez fini, là?
Oui, c'est bientôt fini, non? Ouais. C'est le dernier paragraphe. C'est vrai que dans les années 70, la pédophilie
n'a pas toujours été condamnée voilà. Par les intellectuels français.
Ben oui. Alors nous, les cons, on condamnait la pédophilie, mais les intellos, pour eux, c'est plus compliqué. Il y avait sûrement du consentement de la victime, voire même de la provocation de leur part. Ils disaient, Faut les voir, des fois, les mômes avec leurs petites couches échancrées, leur croque-top d'oral exploratrice ou leur short à ras du genou, à sucer nonchalamment leur totote avec leurs petits regards par en dessous en faisant des allers-retours. Bande de petits allumeurs. Eh bien, vous voyez que ça ne marche pas. Il n'y a qu'un esprit malade qui peut penser comme ça.
Certainement.
Et le consentement, à présent, ce n'est pas une avancée, à part peut-être au Yémen ou au Nigeria. D'ailleurs, j'adore, moi, ce mouvement où on met la photo, sa photo à 13 ans, pour nous rappeler qu'à 13 ans, on est des mômes. Alors moi, j'ai pas mis la mienne, parce qu'entre l'acné et l'appareil dentaire, j'étais à l'abri du pédophile. Je pense que j'aurais fait vomir Émile Louis, qui était pourtant pas regardant sur la qualité à ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit. Alors, on parle beaucoup du Covid aujourd'hui, mais Philippe, vous êtes un peu notre chevalier du ciel de l'actu. Vous avez tout survolé pour nous.
Je survole énormément. Je suis allé picorer les mots de l'actu pour qu'on saisisse un peu l'ambiance du moment, la vibe. Alors, dans l'actu, j'ai un troisième confinement qui arrive, un couvre-feu, des inondations. Merci Peggy. Un plan cancer, un peu d'inceste, réanimation, pédophilie.
Ouais. On ne sait que choisir.
Oh ben oui Thérèse, on ne sait que choisir dans cette joyeuse actu.
Mais tout n'est pas si noir Philippe, il y a beaucoup de gris, je crois que vous avez déniché une bonne nouvelle.
C'était pas simple mais j'en ai une. Dans le Huffington Post, ça va vous faire plaisir à tous, l'enveloppe de dotation matérielle des députés a été augmentée de 15%. Quel soulagement! What a relief, Spencer! On est parti. Alors, ça fait plus de 1 842,50 € par an. On est content pour eux. Alors, c'est pour leurs déplacements et les événements. Alors, vous allez me dire, oui, mais les événements et les déplacements avec la pandémie, il n'y en a plus. Oui, ben, c'est pas grave, ils arriveront à le dépenser quand même.
Alors, vous pouvez encore en plus chercher votre visage sur la puberté. Vous n'y êtes pas, c'est comme ça et c'est pas grave.
Si, voilà. Thomas, je suis contrarié. Oh. Voilà. Excusez-moi. Je vais faire quelque chose, ça va prendre une minute, je vais appeler le PDG Régis Ravanas.
Oh non.
Je me mets en haut-parleur. Ouais. Ça sonne.
Merci.
Son 06.
Vous avez du réseau.
Bonjour, ici Régis Ravanas, RTL. N'hésitez pas à laisser un message. En revanche, si c'est Philippe Cavrivière, ça suffit maintenant. Tu auras ta photo sur l'affiche lorsque tu seras connu. Hein ? Merci.
Bon, il doit être en ligne avec l'imprimerie, je pense, pour régler ce problème.
C'est le vrai Régis Ravanas qu'on a entendu. Bon, vous avez aussi un message pour les navigateurs du Vendée Globe.
Ne rentrez pas ! Ne rentrez pas ! La vie, c'est de la merde ! Faites demi-tour ! Si vous arrivez au Sable d'Olonne après 18h, vous allez prendre 135 euros ! Repartez en mer !
Merci beaucoup Philippe Cabrivière. Quelle tendresse et quelle horreur. Tout ça réuni en un seul homme aussi sympa, c'est très étrange, c'est très troublant et c'est un plaisir que l'on renouvellera jeudi.
Ben, je vous en prie, merci pour la liberté.
Voilà, 100% libre, hein, ça vous donne une idée de ce rendez-vous avec Philippe Cabrivière qui sera donc même là jeudi pour le meilleur pendant ses vacances, tout comme Thomas Soto qu'on a entendu et qu'on salue au passage. Allez, courte pause et puis dans un instant, Claire Coach. Aujourd'hui, elle se prénomme Claire, mais avant, c'était Chidem, un choix pour la France, pour l'intégration, pour elle-même évidemment, et finalement une rupture totale avec sa famille, sur son environnement. Illustration du repli communautariste à l'heure de l'emploi contre, à l'heure de la loi pardon contre les séparatismes. On en parle tout de suite avec elle. À tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, Claire Coach, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur RTL. Vous publiez Claire, le prénom de la honte, c'est chez Albin Michel. Alors vous êtes journaliste, fille d'immigrés turcs. Vous êtes née en 1983 au fin fond des montagnes anatoliennes. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 1 an. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'en 2006, vous avez vécu une enfance, une adolescence, puis une vie de jeune adulte totalement coupé en deux, entre deux cultures?
Complètement. En fait, c'est ce que j'explique pendant tout l'ouvrage, en fait, tout le livre, les 200 pages de ce livre, les 208 pages. J'étais tiraillée entre l'identité que mes parents voulaient que j'aie entièrement. Ils voulaient m'élever. Ils m'élevaient comme une Turque. J'étais élevée comme une étrangère. Donc, sur tous les plans de ma vie.
Mais ça va très loin. Parce que, par exemple, à un moment, vous vous racontez... Alors, vous êtes lycéenne. Vous êtes avec une copine qui vous demande si vous voulez un œuf à la coque. Et vous ne savez pas ce que c'est qu'un œuf à la coque.
Non, parce que moi, j'ai été vraiment élevée comme une turque. C'est-à-dire, même dans la cuisine turque, je ne décrochais pas chez mes parents de la cuisine, puisque je lavais, je cuisinais, je repassais, je rangeais. Je n'avais pas le temps de faire mes devoirs. Il fallait, c'était tâches ménagères qui étaient prioritaires, et notamment la cuisine turque. La cuisine était turque. Mmh. Et un jour, effectivement, j'étais en BEP vente. Alors, un BEP, ça peut paraître peut-être nul pour certaines personnes, mais pour moi, c'était une voie de secours. Et c'était la chance d'avoir à la fin un métier entre les mains. C'est ce que je rêvais. Je rêvais d'être une femme libre.
Émancipation.
Et donc, absolument. C'était le premier pas, mon premier palier. Mmh. Et ensuite, donc, cette copine à midi, ma copine de classe, me propose d'aller déjeuner chez elle. Oh, je me disais, c'est génial, je vais enfin découvrir ce que c'est la maison de français d'origine. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Quand j'allais à l'école, le matin en bus, je passais devant ces fenêtres où j'apercevais un petit peu les salons et je me disais, oh, mais de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça mange?
Qu'est-ce qu'il regarde à la télé?
Absolument.
Mmh, parce que la télé, c'était turc?
Oui, parce que voilà, quand vous me dites que j'avais deux cultures, en fait, ma culture française, elle était à l'école, elle n'était pas à la maison. On ne regardait que la télévision turque, et les programmes télé étaient turcs.
À l'école, certes, mais à l'école, vous avez aussi appris le turc via l'ELCO, via l'enseignement de la langue et de la culture d'origine.
Ouais. Je vais juste finir sur ma copine qui m'a emmenée au lycée, chez elle, à midi, et elle me dit, est-ce que tu veux manger un œuf à la coque? Oh, je me suis sentie tellement bête, parce que je ne savais pas ce que c'était un œuf à la coque. Et elle me dit, mais non, t'inquiète pas, je sais que tu sais ce que c'est, mais tu l'appelles autrement. Vous voyez, l'intégration, ça passe aussi par ça, par ces références communes, en fait. Quand vous êtes élevé comme une étrangère, sans ces valeurs bas, à l'école, vous ne trouvez pas votre place. Et ensuite, ça va aussi dans le milieu professionnel. Quand on dit qu'on n'a pas les codes, c'est aussi cela, les codes. C'est les références, c'est la télévision, c'est des répliques de films. Quand vous ne les avez pas, que toutes vos répliques, elles sont turques, par exemple, eh ben ça marche pas. Mmh. On se sent ensuite, on n'arrête pas de vous dire vous êtes victime, on vous a mal accueilli. Voilà, il faut voir aussi ce qui se passe dans les maisons. Donc,
juste un mot rapide sur l'ELCO, sur l'enseignement de la langue et de la culture d'origine. Voilà. Est-ce que vous ne faisiez qu'apprendre la langue turque?
Alors, les ELCO, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des cours optionnels dans la langue d'origine des enfants qui vont à l'école de la République. Donc, c'était le mercredi, alors que mes copains, copines de classe restaient dans la classe avec la maîtresse pour faire de l'art plastique. Moi, j'allais dans une autre salle et on m'enseignait le turc avec un professeur qui venait de Turquie, payé par l'État turc. Et donc, ce professeur ne faisait qu'appliquer le programme scolaire turc. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce programme scolaire turc? Eh bien, on vous apprend la devise turque, tout d'abord. On chantait, on récitait cette devise. Je suis fier, je suis turc, je suis travailleur. Enfin, ce sont des bonnes notions, en fait, en réalité. Mais qu'est-ce que ça faisait dans les écoles de la République française? Et je me disais quand même, pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école française? Ce sont des valeurs saines, comme la Marseillaise, par exemple. C'est ça aussi qui fait qu'on devient une nation.
Alors, juste avant de parler, j'allais dire, du virage que vous allez prendre à un moment, on précise quand même, à 21 ans, je crois, vous l'expliquez, vous vous mariez à un étudiant turc, mariage uniquement religieux. Oui. Parce que le mariage civil, ça compte pas.
Non, le mariage républicain n'a aucune valeur, en tout cas dans ma famille, hein, parce que je vais parler de ma famille sans faire de généralité.
Bien sûr.
Pour ma famille, le mariage républicain à la mairie n'avait aucune valeur. Donc, il y a parce que ma famille est issue d'une minorité religieuse, ce sont des alévis. Donc, il y a un membre de la communauté âgé qui est venu et qui a scellé notre mariage. Et puis, ça n'a pas duré, puisqu'en fait, on avait deux visions complètement différentes du monde. Lui voulait ce jeune homme à qui j'étais mariée, entre guillemets, mais pas mariée civilement, voulait par la suite que j'arrête mes études. J'étais jeune étudiante à la fac, j'avais de l'ambition comme tout le monde, j'avais envie de réussir, j'avais envie d'être libre aussi, d'être intellectuellement libre aussi. Donc il voulait que j'arrête mes études, qu'on ait des enfants, que je m'occupe de sa maman, que je débarrasse, comme tout ce que je faisais à la maison, j'ai tout fait.
Alors
voilà.
on va arriver quand même à cette période charnière, 2008, vous faites une demande de naturalisation, mais aussi de changement de prénom.
Absolument.
Pourquoi était-ce si important pour vous de changer de prénom ?
Je parle vraiment de mon cas personnel. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas une obligation. Je tiens à le préciser parce que j'entends souvent que c'est pas que changer son prénom, ça fait pas l'assimilation. Enfin, c'est pas une obligation. Moi, personnellement, j'avais besoin de changer de prénom parce que souvent, très souvent, quand on se sent français, on a envie d'avoir un prénom français. C'est arrivé dans le passé avec Guillaume Apollinaire, qui était né Guglielmo à Rome, qui était apatride d'origine russe. Sa mère l'avait appelé Guglielmo parce qu'il était à Rome. Et quand il est devenu français, eh bien, il a choisi le prénom de Guillaume. Ce que je veux dire, c'est que l'identité et l'origine, ce sont deux choses différentes. L'origine, on est avec. Mais l'identité, c'est quelque chose que l'on construit tout au long de sa vie. Donc, mon identité, ma quête identitaire, elle allait jusqu'à mon prénom.
Alors, vous obtenez cette demande de naturalisation. Oui. Je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est passé lorsque vous êtes rentré chez vous ce 20 juin 2008, après la cérémonie à la préfecture.
Oh, comment vous dire ? C'était violent. C'était d'une violence. Je ne sais pas comment on peut faire ça à son propre enfant. En plus, j'étais une fille, je pense que ça joue beaucoup. Parce que mes frères, eux, n'ont pas changé leur prénom, mais on leur a jamais reproché leur mode de vie. Ils pouvaient sortir quand ils voulaient. Moi, j'avais pas la même liberté. Donc, quand je suis arrivée toute heureuse pour fêter ma naturalisation...
Vous étiez très fière.
J'étais fière. J'avais chanté la Marseillaise. J'étais heureuse. Je me sentais enfin reconnue comme française. Moi, qui étais la seule immigrée de ma famille, entre mes frères, je veux dire de la fratrie. Mes frères sont nés en France, donc ils n'ont pas fait tout ce cheminement. Et j'étais fière de montrer ma carte d'identité. Regardez, j'ai même changé de prénom.
Et alors?
Et là, c'était quoi, Claire? Mais c'est quoi ce prénom de merde? Mais t'as honte de tes origines? Quand ils m'ont dit ça, mais Claire, mais c'est nul, quoi. Là, je m'attendais pas à ça. C'était violent, c'était une humiliation supplémentaire. Parce que quand j'étais petite, par exemple, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais. Et puis j'habitais dans une cité, j'avais pas deux frères, mais 50 frères. Tout le monde, quand vous êtes une fille, c'est ça là aussi la réalité des cités. C'est dur d'être une fille, c'est dur de se faire sa place. La féminité, elle n'existe pas. Il vaut mieux pas, parce que sinon, on vous colle une étiquette, on vous colle une réputation. Enfin, c'était vraiment dur. Donc voilà comment c'était. Et puis en plus, j'avais des amis aussi français d'origine qui étaient venus pour fêter ma naturalisation, je les avais invités, et eux m'ont dit « Mais la Marseillaise, mais comment on peut faire ça à des étrangers? C'est violent, c'est raciste. » Et là encore, je me disais « Mais même en ayant la nationalité française, ils me voient encore comme une étrangère.
» Bon, ce livre est passionnant.
Je me sentais comme une résistante, voilà ce que je voulais vous dire.
On sent la résistante derrière ce livre. Bon, malheureusement, on doit conclure, mais juste un mot quand même. La loi contre les séparatismes là, vient d'être votée. Je voudrais juste qu'on évoque peut-être une particularité turque. Est-ce que ça existe? Est-ce que la communauté turque est plus refermée sur elle-même?
Moi, je ne peux pas faire de généralité, évidemment, mais ce que j'ai observé, en tout cas, c'est que, vous savez, quand les familles célèbrent des mariages, très souvent, le garçon ou la fille viennent du pays, du village en général. Et en général, c'est un cousin ou une cousine. Il y a très peu de mixité, même au sein de la communauté. Les familles ne se mélangent pas forcément. Ça, c'est souvent le cas. Donc, c'est toujours une première vague de migration qui arrive. Et les enfants, évidemment, ça parle turc et toutes les références sont turques. Voilà, c'est ça. Donc, je ne peux pas me prononcer pour tous les Turcs, mais en tout cas, dans ma famille, c'était comme ça. Mes parents, d'ailleurs, sont cousins germains.
Ah oui. C'est quoi être française pour vous?
La réponse est très simple, c'est aimer la France.
Merci. Claire, le prénom de la honte. Je vous recommande ce livre. Il est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur RTL. Dans un instant, ce sera la culture de l'actu avec Julia Molcou. Vous savez, il y a un match ce soir. Où ça? À Barcelone. Eh bien, on va parler de Barcelone.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Elle est là le soir sur RTL, juste avant 19h. C'est Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Bon, ce soir évidemment, c'est le choc des titans. Barcelone, PSG, 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est l'occasion pour vous Julia de nous emmener à Barcelone dans cette culture de l'actu.
Barcelone m'a émue. Ville belle, lunatique et énigmatique.
Disait Gabriel Garcia Marquez.
Bravo. Ouais. Barcelone, ses Ramblas, ses plages, le grand théâtre du Liceu, la Fondation Miro, le musée Picasso et bien sûr, tous les chefs-d'œuvre signés Gaudi.
Si tu n'as pas vu Gaudi, va faire un tour en Espagne. Il dort à la Belle Étoile, sur les toits de Barcelone.
Antoni Gaudí, né le 25 juin 1852 et diplômé de l'école d'architecture de Barcelone en 1878, est un génie créatif tout à fait exceptionnel. Mais la révolution stylistique que Gaudí va opérer ne sera possible que grâce au soutien financier d'un industriel catalan, Eusebi Güell, pour qui l'architecte va d'ailleurs réaliser plusieurs constructions, le Palais Güell, la Casa Mila et le Parc Güell.
Et le Parc Güell, évidemment. Difficile d'accès, faut monter.
Et puis en 1883, eh bien c'est la consécration puisque Gaudi est choisi pour l'édification de la Sagrada Familia, considérée comme l'œuvre majeure de sa carrière, certes toujours inachevée. Mais c'est bien dans sa crypte qu'Antoni Gaudi repose depuis sa disparition en 1926. Et si son travail n'a été reconnu à sa juste valeur que tardivement, eh bien sachez que 7 de ses œuvres ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 84 et qu'il est aujourd'hui le symbole de Barcelone. L'oxystomas, Barcelona. Siendo esposo
de tus ruidos, tu labirinto extrovertido. Alors Barcelone, ville d'architecture, vous l'avez dit, de peinture aussi, mais ville de cinéma.
Eh oui, bien des films ont été tournés à Barcelone. Vous entendiez là un extrait de la bande-son de Vicky Cristina Barcelona, film de
Woody Allen.
Bravo, sorti en 2008. Mais c'est aussi le décor de Tout sur ma mère, sublime film de Pedro Almodovar, de L'auberge espagnole de Cédric Lapige dont on parlait hier, et puis encore de Beautiful d'Alejandro Iñárritu, film dans lequel Barcelone est dépeinte de façon bien plus décadente que lorsque Charles Trenet la chantait.
J'ai revu la Rambla et les fleurs au soleil, et le port tout là-bas, Barcelone. J'ai revu dans les rues, sur les places et boulevards, de belles filles aux yeux noirs.
Alors Boris Vian chanta lui aussi la capitale de la Catalogne, tout comme Barbara Pravi, vous savez la chanteuse qui va représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. Eh bien elle, un jour, elle n'est pas montée dans l'avion qui devait l'emmener vivre à Barcelone, où pourtant l'attendait un garçon qu'il aimait.
Si ce jour-là j'étais descendue de l'avion, aurait-on une autre chance?
Comment parler de Barcelone sans parler de Freddie Mercury? I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson?
Non, vous allez nous la raconter.
Oui, cette chanson est née d'une rencontre entre Freddie Mercury, le leader charismatique du groupe Queen, et la soprano espagnole Montserrat Caballé. Mercury avait entendu chanter Caballé un soir à Londres en 1983. Il avait été bouleversé par l'artiste. Alors quand quelques années plus tard, Freddie Mercury est choisi pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Barcelone prévue en 92, eh bien c'est tout naturellement qu'il pense à Montserrat Caballé, originaire de Barcelone. Et c'est ainsi que sortira le titre Barcelona en 87, suivi de l'album du même nom l'année suivante. Malheureusement, le grand show de Barcelone n'aura pas lieu, puisque Freddie Mercury est mort en 91.
On écoute. Oh, ça pourrait presque faire un hymne pour la Ligue des Champions, ça,
presque.
Ce soir. Hein,
on vivement peut... le retour des voyages et qu'on aille manger des tapas au marché de la Boqueria, Vincent et Peggy, ensemble.
Ah oui, vous m'emmènerez. Espérons que tout cela, en tout cas, va motiver les Parisiens ce soir. Merci.
Oui, parce que
beaucoup.
Rappelons-le. Hein.